Les Amis de la Santé, une association qui a pour but d'accompagner les personnes qui sont dépendantes d'addictions de toutes sortes. Jean-Claude et Gérard de l'association Les Amis de la Santé, au micro de Chris Alessandri.
Jean-Claude et Gérard, les Amis de la Santé, nous sommes dans une ambiance qui est à la fois agréable et à la fois qui permet de se poser des questions sur pas mal de sujets. Où en est l'association à l'heure actuelle, les Amis de la Santé ?
Alors, les Amis de la Santé, donc, elle a presque un an. Hein. Alors, elle avance doucement. On a démarré, on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, on est combien ? On est 6, 7. On suit notre petit bonhomme de chemin.
Mission d'utilité publique. Quelle est cette mission ?
Oui, la mission reconnue d'utilité publique nous est accordée par l'affiliation à la Fédération nationale des Amis de la Santé. Ça nous ouvre des portes un petit peu dans des endroits où nous ne les ouvrirait pas.
Je pense que la mission qui nous est proposée, c'est de proposer une écoute des groupes de parole aux gens qui souffrent d'une addiction. Donc nous sommes là pour ça, nous ne sommes pas des médecins, nous sommes là essentiellement pour écouter les gens et éventuellement donner des conseils. C'est la mission que nous sommes fixés.
Dans ce dont vous nous parlez, moi je vois l'isolement. L'isolement, il est omniprésent, il est toujours là en fonction des personnes que vous rencontrez.
Oui, tout à fait, on se rend compte, si vous voulez, que beaucoup de personnes hésitent à venir nous voir, soit par refus de prendre un risque, ou ils n'ont pas encore accepté qu'ils sont dans le déni, ou notre communication n'est pas à la hauteur et que peut-être que nous ne faisons pas suffisamment connaître.
L'isolement, comment vous le percevez ? De quelle façon est-ce que vous pourriez le définir, vous qui le côtoyez, vous qui le rencontrez, et qui essayez justement de tirer ces personnes vers autre chose ?
Il y a beaucoup de gens qui hésitent à venir nous voir, parce que d'abord ils ont peur du jugement. Ça, c'est déjà quelque chose que nous rencontrons très souvent. Donc, il faut donc déjà commencer par les écouter, comme l'a dit Gérard, mais surtout bien leur expliquer qu'on a la même maladie qu'eux et qu'on n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais on est là pour essayer de trouver une solution avec eux de façon à les aider du mieux possible.
Alors, c'est bien défini, hein. L'addiction, c'est une maladie.
C'est une maladie, alors c'est pas forcément les gens qui consomment trop d'alcool, hein. L'addiction c'est les gens dont la seule gestion de l'alcool est une fuite en avant, toujours consommer plus. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent peut-être trop consommer mais s'arrêter du jour au lendemain, ils seront jugés comme alcooliques, comme nous, mais ils ne seront pas confrontés au même problème.
Pour moi, oui, l'addiction c'est une maladie. Alors l'addiction peut être large, hein. On peut être addict à alcool, tabac, cannabis, cocaïne, jeux, argent, travail, sport, etc. etc. Et après, c'est déjà, il faut d'abord que les personnes sortent du déni, parce qu'avec les personnes qui sont dans le déni, on ne peut rien en faire. Et à partir de là, on peut commencer à se reconstruire.
Et pour ça, la parole. La parole, elle est indispensable, et qui dit parole dit forcément écoute.
Écoute, c'est la communication, parole, écoute. Vous m'envoyez quelque chose, je vous écoute, je vous renvoie quelque chose. Et c'est très important parce que ça amène une confiance mutuelle. Et il faut que les gens, si vous voulez, qui viennent nous voir, puissent justement nous faire confiance.
Cette parole, comment l'amorcer ? Parce que ce n'est pas toujours évident. Prendre la parole, il y a du monde autour, il y a des personnes qu'on ne connaît pas forcément.
Non, des fois on a des surprises. Par quel biais les gens ont trouvé notre annonce, nos coordonnées ? Il faut d'abord essayer de les mettre à l'aise. Quand ils arrivent, la première chose, c'est essayer de les mettre à l'aise de façon à ce qu'ils puissent, j'allais dire, poser leur valise, expliquer un petit peu leur pourquoi, quelle est leur souffrance, quel est leur le fond du problème. Donc à partir de là, on peut commencer à, moi j'appelle ça, dévider la pelote de laine. On peut commencer à tirer et puis par certains côtés, à les amener à parler. D'accord ?
La meilleure façon peut-être de mettre à l'aise, c'est de savoir que la personne qui est en face de vous, quelque part, a suivi un cursus identique aussi.
C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir, effectivement, ont en face d'eux des gens qui ont touché le fond. Quand on a touché le fond, effectivement, on ne va pas juger les gens qui essayent de remonter. On connaît, on n'a pas les solutions, c'est pas vrai, mais enfin, on sait comment on a fait. On peut éventuellement donner des conseils, parler de notre expérience, mais surtout si on ne juge pas. C'est très important de ne pas juger. Là il y a quelque chose. Récemment, il y a quelqu'un qui est venu nous voir, et qui est c'est une femme, donc, hein, et c'est encore plus dur pour une femme. Le regard de la société par rapport au problème quand cette maladie touche une femme. Parce que, c'est pour faire court, pour vous dire une chose, voilà, un homme qui a une vie, si vous voulez, où il fréquente beaucoup de femmes, sera un Don Juan. Pour les femmes, on ne dit pas ça. On dit un autre mot beaucoup plus, c'est pareil pour l'alcool. Et c'est vrai que cette personne nous a expliqué le mal qu'elle avait eu pour venir nous voir. Et je pense qu'on a on l'a bien reçue parce que petit à petit, elle s'est libérée. Et elle nous a parlé à la fin. Alors qu'au début, elle était un petit peu gênée. Quand elle t'a eu au téléphone, Jean-Claude, elle voulait savoir s'il y avait d'autres femmes dans le groupe. Parce qu'elle ne voulait pas être, pas forcément montrée du doigt, mais enfin se sentir seule, quoi. Elle craignait ça. Et c'est vrai que c'est très, très, très important parce que bon, quand il y a quelqu'un qui vient nous voir, pour nous, c'est quelque chose. C'est quelqu'un qu'on va pouvoir aider, mais qui nous aide, nous également. Nous, parce que bon, s'il y a personne qui vient nous voir, je veux dire, on peut se poser l'utilité de notre démarche. Quelle est l'utilité de cette démarche s'il n'y a personne qui vient nous voir? C'est vrai, quand on rencontre quelqu'un qui vient se livrer à nous et qui arrive, qui est, je dirais, sur la réserve, mais qui est au bout d'une heure, bien, effectivement, c'est un petit peu détendu, ça c'est extraordinaire.
Jean-Claude, vous aviez dit sur notre antenne, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime.
Alors, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est-à-dire que, en fait, ça, excusez-moi de l'expression, mais ça pourrit à l'intérieur. Et ça, c'est... Enfin, moi, j'en sais quelque chose, parce que dans l'alcool, j'ai quand même un parcours quand même assez important. Et moi, j'avais le gros problème que j'avais, c'est que je ne parlais pas. Donc, tout restait à l'intérieur, et je sais le mal que ça fait. Et pour arriver à extérioriser tout ça, arriver à l'exprimer, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, donc, avec, je dirais, je suis abstinent, comme dit Gérard, depuis le siècle passé. Aujourd'hui, je connais l'avantage de la parole.
Quand on est comme ça, au contact de personnes qui ont besoin de vous, il y a peut-être un petit risque aussi, c'est de ne pas trop plonger dans cette spirale. Il ne faut pas devenir une éponge, en quelque sorte. Il faut être vigilant et attentif sur soi en même temps aussi.
Ça, je pense, à plus concerner les soignants. Que nous ne sommes pas dans cette approche-là. De toute façon, nous ne sommes pas des éponges. Enfin, on l'a été peut-être à un moment donné, mais plus maintenant. L'écoute, si vous voulez, que moi, je me souviens qu'en cure, donc un centre d'addictologie, j'ai discuté avec une infirmière qui me disait « Non, mais monsieur Camus, les problèmes, on les laisse, nous, quand on part, on les laisse là. On ne peut pas se permettre de les amener avec nous. » Alors nous, ne les amenons pas, mais on ne peut pas avoir la même écoute qu'un soignant. Ce n'est pas possible. Parce que déjà, nous ne sommes pas des soignants.
La parole, disons que faire l'éponge, moi je sais que quand je sors, quand je pousse la porte, ça reste tout à l'intérieur. C'est-à-dire que je n'emmène pas avec moi parce que après c'est trop lourd à porter, je ne pourrais pas. Donc j'ai appris, quelque sorte, par nécessité, justement de ne pas faire l'éponge et de bien faire distinction entre le problème que j'ai en face de moi et le mien, d'accord ? Parfois, j'ai des personnes qui, par leur parcours, me mettent devant un miroir, quoi, devant une glace, et je me vois à l'intérieur. Et ça me rappelle quand même des choses que j'ai vécues, quoi. Mais bon, il faut quand même que je sache mettre à la barrière.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open.
forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. They are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
On parlait de l'accompagnement, on parlait du cercle autour de la personne en général. Est-ce que les proches peuvent venir vous rencontrer également ?
Tout à fait, tout à fait. Nous accueillons les conjoints, conjointes, compagnons, compagnes avec plaisir, dans la mesure où ils désirent ou le souhaitent. Et je pense que c'est très utile. C'est très utile parce que ça veut dire qu'il y a une démarche au départ où le couple ou les membres de la famille peuvent avoir une certaine complicité. C'est-à-dire que la personne qui va venir nous voir n'est pas seule. Il y aura une écoute d'une autre personne qui sera là, partagée. Souvent, ce sont des personnes, les compagnons ou compagnes, qui souffrent énormément. Ils sont dans le désarroi parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils sont confrontés à un problème qui les mine, qui les ronge, qui détruit leur vie. Et je pense que de pouvoir venir, si vous voulez, d'accompagner la personne qui est malade chez nous, je pense que c'est utile et que c'est important.
Jean-Claude, est-ce que l'entourage a une influence ?
Oui, je pense que oui. On l'a vu donc vendredi quand on était à Clichy-d'Arzelier, donc à La Ragne. Moi, je sais, s'il y a une personne dans l'entourage à côté du malade, il y a des choses que le malade ne nous dira pas. Parce qu'il y a trop d'affect, il y a trop de promiscuité en fait avec son entourage. Mais l'entourage peut venir nous voir parce que c'est l'occasion de venir apprendre certaines choses. Parce qu'il y a trop de gens qui ont des idées reçues, qui sont persuadés qu'ils ont raison, alors qu'ils ne connaissent rien de la maladie. Ils connaissent ce qu'ils vivent avec le malade, mais de la maladie, des conséquences et des pièges et de tout ce qui va avec, ils ne savent pas. Un des bons moyens de le savoir, c'est peut-être de venir nous rencontrer et puis de venir apprendre. Ça peut éviter quand même quelques difficultés. Les rencontres se font à la salle René-Cassin, à Sisteron, impasse du Portail. On peut aussi recevoir des personnes donc individuellement. Vous avez des personnes qui ont une certaine appréhension de venir parce qu'ils ont peur d'être vus, d'être, vous savez, des gens qui connaissent du monde autour, on ne sait jamais. Aujourd'hui, j'avais un doute là-dessus, mais aujourd'hui je ne l'ai plus. On peut les recevoir individuellement, commencer à leur expliquer que, que s'ils veulent continuer à venir, ils peuvent, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tout ça. La porte est toujours ouverte. Et donc, c'est une façon de les mettre à l'aise, en quelque sorte.
Ces rendez-vous que vous fixez, ils sont donc planifiés, bien sûr. Ça se passe quand ?
Ça se passe, si vous la demandez des gens, en fonction de leur disponibilité. Nous avons la permanence tous les 15 jours à la salle René-Cassin. Et après, nous sommes disposés à rencontrer les gens en dehors de ces permanences. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore produit. Peut-être qu'il va y avoir une possibilité là bientôt, puisque on a un couple qui est venu nous voir, et après, en fonction de leur disponibilité, de leur volonté, on verra. Mais c'est une proposition qui est là.
En ce qui concerne ces rencontres, comment définir l'ambiance quand il y a un groupe, par exemple, que vous travaillez avec un groupe ? Quelle ambiance y a-t-il ?
Ça, l'ambiance, d'abord, l'ambiance, elle se crée. Disons que nous essayons de faire en sorte de dédramatiser, de les accueillir, on va dire, avec bienveillance. Parce que ça, je pense que c'est... Enfin, la bienveillance, vous savez ce que c'est. Donc, il y a...
Ça s'apprend, la bienveillance, ou non?
Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, non. Vous avez des personnes qui sont bienveillantes de nature. Et vous avez des personnes qui peuvent toujours s'améliorer et qui peuvent toujours acquérir comment être bienveillant avec l'autre.
Oui, moi, je dirais que c'est rapidement détendu, de toute façon. On essaye de ne pas que ce soit trop formel. On ne parle pas nécessairement que d'addiction. Hein. On peut également plaisanter sur d'autres sujets. Moi, je trouve que c'est détendu. Échange, voilà. Écoute, parole, échange.
Pour vous rencontrer, pour prendre contact avec vous, de quelle façon est-ce qu'on doit procéder?
Alors, y a le téléphone. Hein, le téléphone, le Jean-Claude, c'est 06 41 43 01 89. Donc, je suis donc le président de l'association. Gérard.
06 22 99 69 05. Nous mettons également, si vous voulez, des affiches dans des affichettes format A4 dans les commerces. Et là, il faut que j'ai récupéré quelques flyers que je distribue dans les mairies qui sont aux alentours de Sisteron, mais côté sud. Et puis les centres médicaux aussi. L'année dernière, j'avais contacté les mairies. Donc en expliquant notre démarche, mais je n'ai pas eu trop de retours. Donc là, je vais mettre des flyers, un petit peu m'imposer. Quoi. Voilà.
Vous avez un magazine également?
Oui, alors nous avons le journal de la Fédération nationale des Amis de la Santé, qui est publié tous les trimestres. Petit journal dans lequel les associations comme la nôtre, par exemple, pouvons faire paraître des articles. Moi, j'en relève quelques-uns. Enfin, j'aime bien le lire parce qu'il m'amène toujours quelque chose. Et chaque fois que je trouve un article, je vais dire, qui me parle. Donc, je fais une photocopie. Je distribue donc ça à toutes les personnes que je rencontre. On intervient donc à l'Aragne. Moi, on intervient aussi donc tous les deux, quand Gérard est disponible, à la clinique Saint-Barnabé de Marseille. Voilà, et donc, je leur apporte ces témoignages qui, je pense, peuvent apporter quelque chose. Mais ça, c'est à eux de voir.
Les amis de la santé, prochain rendez-vous, l'avenir, comment est-ce que vous le voyez, comment est-ce que vous le sentez?
L'avenir, de toute façon, pour moi, c'est clair. C'est durer le plus longtemps possible, de continuer à essayer de faire du bien aux personnes qui en ont besoin et être toujours sur le terrain. Vous en savez quelque chose, Chris?
Vous montez au créneau, quoi.
Voilà. Voilà, on continue à essayer de se faire connaître le plus possible et puis d'être le plus efficace possible parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Donc nous, on le voit, ils ont du mal à venir, mais moi, je désespère d'arriver à quelque chose de bien.
Eh bien, moi, j'ai proposé à Jean-Claude, là, très récemment, il va y avoir au mois de janvier le mois sans alcool, et que peut-être on va utiliser ça comme support pour faire parler un peu de nous. Ça, c'est dans l'avenir immédiat. Et après, on verra par la suite.
Jean-Claude et Gérard, on se dit un de ces jours?
Très volontiers. Écoutez, moi, c'est un grand plaisir de venir ici. Je vous remercie parce que c'est très agréable et très positif.
Moi, je ne vais pas trop réenchérir, mais c'est vrai que pour moi aussi, c'est vraiment toujours un plaisir de venir vous rencontrer parce que je crois qu'on a quand même tissé quand même quelques liens, on va dire, très intéressants, quoi. À bientôt, peut-être qu'on viendra pour annoncer donc ce mois sans alcool, donc le mois de janvier.
Rendez-vous est pris. Merci, messieurs.